pardon, chapitre 1, à partir du verset 3. « Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure. Et je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières nuit et jour, car je me souviens de tes larmes et j'ai le vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi et qui habita d'abord dans tes aïeuls, Loïs, et dans ta mère, Eunice. Comme j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas par un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile, pour la puissance de Dieu. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Christ Jésus, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. Et c'est pour cette cause que j'endure ces souffrances. Mais je n'ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ Jésus le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par les Saint-Esprit qui habitent en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Il n'est pas d'un soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. L'apôtre Paul parle à un jeune pasteur, à un jeune serviteur de Dieu, à un collègue, à quelqu'un avec qui finalement instaure une relation très forte. Pourquoi ? Parce qu'ils partagent pas mal de choses ensemble. Cet homme, c'est Timothée. Et comme Timothée qui avance dans la foi, qui avance dans cet appel de Dieu, a besoin de conseils, nous aussi nous avons besoin de le conseil de Dieu. Et finalement, l'apôtre Paul, il lui parle de ce qui est le cœur du disciple. Être disciple, ça veut dire finalement avoir fait le choix de donner notre vie à Jésus-Christ en tout et pour tout. Je me disais il y a quelques jours, quand on raisonne et on réfléchit au mot « racheter », qu'est-ce que veut dire être racheté ? Qu'est-ce que ça veut dire être racheté ? Finalement, nous avions une dette, qui est la dette du péché, et Christ a payé pour nous. À partir de là, notre vie, elle lui appartient. Nous avons accepté qu'il paye notre dette. Donc je me dis, Seigneur, combien est important pour nous finalement de saisir, de comprendre que nous n'avons plus à marchander avec toi. Nous ne sommes pas en position de marchander avec Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu nous invite finalement à le comprendre, à le saisir dans notre cœur. Et l'apôtre Paul dira au verset 3, il est question d'avoir une conscience pure. Servir Dieu avec une conscience pure. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce désir de dire « je fais ceci pour obtenir cela ». Il n'y a pas de marchandage. Ce n'est pas comme si on était en train d'investir pour pouvoir gagner plus. Je donne à Dieu pour que Dieu me donne plus. Si c'est ça, on s'est trompé. On n'est pas des disciples. Finalement, on n'a pas compris le sens. On est des marchands. Et la parole de Dieu nous dit ce que Jésus fit avec les marchands du temple. Il renversa leur table en leur disant qu'ils avaient transformé la maison de prière de Dieu dans un lieu de voleurs. Comme si on pouvait voler à Dieu la bénédiction, comme si on pouvait truander Dieu, si on pouvait lui dire des choses que finalement ne sont pas la vérité. Et Dieu sait mieux que nous ce que nous on pense savoir. Mais finalement, nous, on ne sait pas, ou on ne réalise pas, ou on ne veut pas réaliser tout ce que Dieu sait. Et on pense parfois pouvoir, à quelque part, jouer avec Dieu. Au verset 5, il parle de la foi sans hypocrisie. Les mots ont une valeur. Êtes-vous d'accord avec moi? Un mot, il est important. Il est question d'une foi sans hypocrisie. Il est question pour nous d'une conscience pure, mais aussi question d'un témoignage qui ne fait pas honte à notre Seigneur. Verset 8. C'est ça le cœur du témoin de Jésus-Christ. C'est ça le cœur de celui qui finalement décide de devenir un disciple du Seigneur. On voit dans la parole de Dieu qu'à un moment, l'apôtre Pierre, alors qu'il est rempli de zèle dans son cœur, il dira, il fera des promesses à Jésus qu'il ne tiendra pas. On connaît, hein? Le coq n'aura pas chanté que. Quel triste moment! Pour autant, le Seigneur ne l'a pas rejeté, mais il a laissé que la parole puisse finalement saisir le cœur de Pierre et le transformer. Alors ça veut dire que pour nous aussi, il y a de l'espérance. Peut-être on s'est déjà engagé avec le Seigneur en disant « Seigneur, je veux être ton disciple, je veux marcher avec toi. » Mais au moment venu, on a reculé. On a pris un peu peur de l'engagement que ça demande s'engager avec le Seigneur. Certes, l'engagement par les eaux du baptême, c'est important. Et ça a une grande valeur. Il ne doit pas être fait à la légère. Autrement, ça veut dire que nous sommes en aucun cas avec une conscience pure. La parole de Dieu nous dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Finalement, dans notre cœur, nous savons à quoi nous nous engageons. Nous savons à quoi nous prenons part. Et les questions d'une foi sans hypocrisie, je sais en qui j'ai cru. L'apôtre Paul, il le dira, je sais en qui j'ai cru. Savez-vous en qui vous avez cru? Amen. Il est important de ne pas donner foi à tout discours. Il semblerait. Alors vous corrigez, hein, je ne suis pas un expert des réseaux sociaux, mais il semblerait que certains puissent croire encore que la Terre est plate. Parce qu'on le dit sur Internet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce moyen de communication, pour certains, finalement, il ne peut y avoir que de la vérité qui circule. Mais la réalité, on sait très bien qu'elle n'est pas là, n'est-ce pas? Il est question pour nous finalement de dire « Seigneur, nous avons besoin de la vérité, non pas n'importe laquelle. Chacun peut avoir sa propre vérité, il peut y croire vraiment. » Dur comme pierre, non? Je crois que c'est comme ça. Mais finalement, quand on est confronté à la réalité, quand on prend un peu de la hauteur, on se rend compte que les choses elles sont bien différentes. Et croyez-moi, Dieu sait prendre de la hauteur. Il s'est exactement examiné le cœur de chaque disciple. Et il dit la parole de Dieu, il savait ce qu'il pensait. Jésus, bien des fois, il entamera une discussion avec ses disciples parce qu'il savait de quoi il s'agissait dans leur cœur. Et à un moment, il leur dit, mais pourquoi raisonnez-vous comme ça? Ça doit faire étrange quand même quand quelqu'un nous interpelle sur quelque chose qu'on pensait dire sans que la personne entende. On peut être mal à l'aise, hein? Surtout si on a pu avoir des propos un tout petit peu, hein? Elle dit, oh, est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce que c'est vraiment lui le Messie? Et on voit que les disciples, à bien des reprises, ils ont besoin que le Seigneur les ramène sur le bon chemin. Il les ramène dans la vérité. Et quand on parle de disciples, on parle du service. En Luc chapitre 14, verset 27, il est écrit « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Suivre le Seigneur, quel bonheur. Mais il a dit de porter sa croix. Quand même. On est en l'an de grâce 2023, y a-t-il encore des croix à porter ? La parole de Dieu nous dit de porter sa propre croix. Nous, parfois, on est prêt à porter la croix des autres. Parce qu'on veut faire du bien autour de nous, et c'est bien. Sauf que le salut est personnel. Et chacun doit porter sa propre croix. Ça veut dire que chacun doit finalement s'engager de manière personnelle. C'est pour cela que les personnes qui vont se baptiser tout à l'heure, c'est eux qui ont fait le choix. Personne ne les a poussés, personne ne les a tirés. C'est quelque chose qui a mûri dans leur cœur parce que la voix de Dieu, par sa parole, a retenti dans leur cœur. Et un choix s'est fait, une décision s'est prise. L'apôtre Paul dira « Mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu ». C'est un appel divin et saint, puisqu'il dira au verset 9 « Celui qui nous a sauvés nous a adressé un saint appel ». Quel bonheur de savoir que Dieu prend soin de nous. Est-ce que vous croyez que Dieu connaît votre prénom ? Votre vrai prénom ? Il y a des endroits où il y a coutume de donner des noms, des surnoms, des alias. Hein ? Mais quand le Seigneur nous appelle par notre prénom. Il ne se trompe pas. Il sait très bien de quelle manière nous appeler. Il sait de quelle manière nous communiquer. Il sait parler au cœur de chacun, même si peut-être on n'a jamais pris le temps de nous approcher de Dieu, ou en tous les cas, on n'a jamais entendu la voix de Dieu d'une manière claire. Mais il y a un moment où Dieu nous interpelle, et c'est personnel, c'est l'appel au salut. Ça peut se passer en tout lieu, en tout moment, en toutes circonstances. Et d'ailleurs, on entendra tout à l'heure par les témoignages, et vous verrez que chacun a vécu cet appel de manière différente. Parce que Dieu traite chacun cas par cas. Il m'est arrivé de voir dans des actions d'évangélisation des dizaines de personnes venir et donner leur cœur au Seigneur. Et au moment où on a eu un temps d'échange avec eux, finalement, chaque expérience était différente. Chaque personne avait reçu une parole particulière. C'était le même message. Mais pourtant, dans chaque cœur, le message s'était posé différemment. La preuve en est que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Et la parole de Dieu nous dit que nous ne sommes pas le centre, puisqu'il dit non à cause de nos œuvres, mais c'est à cause de son propre dessein. Dieu ne nous appelle pas parce qu'on a fait des œuvres. Hein. Dieu ne nous appelle pas parce qu'on est beau. Dieu ne nous appelle pas parce qu'on sait parler ou quoi que ce soit. D'ailleurs, les premiers disciples, ils ne savaient ni lire ni écrire. C'était des hommes qui vivaient normalement comme tout le monde, mais qui avaient besoin surtout du salut de Dieu. Comme nous en avons, nous, besoin aujourd'hui. Si on était parfait, on ne serait plus là. Mais on a tous besoin de la grâce de Dieu. Et il dira que c'est de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant le temps éternel. Ces projets nous attendent, certes, mais les projets de Dieu continuent. Dieu nous tend un appel, mais à nous de le saisir au bon moment. Ça vous est arrivé de rater un train ? À qui c'est arrivé ? Dites-moi. Vous étiez heureux après avoir raté le train. Hein ? Vous êtes chouette ! J'ai raté le train ! Pourtant, et tous les retards qu'ils font, il faut le faire de le rater. Hein ? Pas seulement ils font tout pour qu'on ne le rate pas, mais nous, on le rate quand même. On fait le retard du retard. Ce serait terrible de rater le train le plus important de votre vie. Celui qui finalement vous donne accès à la vie éternelle. Il est question pour nous de dire, Seigneur, aide-moi. Il parle d'un évangile puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit l'impuissance, la mort, et a mis en lumière la vie incorruptible par l'évangile. Ce qui est souvent le cas, très souvent le cas, c'est que les personnes qui donnent leur vie au Seigneur, et moi je suis le premier à le témoigner, finalement voyaient leur vie arriver au bout. D'ailleurs, personnellement, je ne voyais pas de lendemain. Mais le Seigneur, par sa grâce et par sa lumière, m'a indiqué qu'il y avait un avenir, non pas dans les choix que j'avais faits, mais dans le seul qui me restait, le seul bon choix. Sommes-nous prêts à faire le bon choix ? Il est question d'un évangile puissant. Il est aussi question de partager à d'autres ce message, en comprenant que le Seigneur nous appelle à le servir, en prenant aussi conscience du prix qui a été payé et du prix que nous devons aussi nous payer. Si Christ a payé à la croix pour nous, la parole de Dieu nous invite aussi à prendre notre part. Et il est question pour nous finalement de retenir. Au verset 13 et 14, il dira « Retiens ». Comment ? Comment retenir ? Dans la foi et dans l'amour. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas question finalement d'avoir gardé de manière psychologique les choses, mais dans la foi, le modèle de la parole de Dieu est garde. Gardez quelque chose. Un jour, j'ai demandé à mon fils qui voulait travailler avec moi, j'ai dit, tu gardes le marteau. Oui, papa. 3 secondes après, je lui dis, passe-moi le marteau. Ah, je ne sais pas où il est. Il voulait travailler avec moi. Je lui dis, bon, allez. Ma femme, elle m'a dit, il faut que tu lui apprennes. Il faut qu'il... Je lui dis, ouais, d'accord, ok, je veux bien. C'était un chantier. Alors, je lui dis, tu tiens la boîte avec les vis. Je me tourne. Tu me passes les vis ? Oh, je ne sais pas où elles sont. Et je lui dis, par contre, tu ne touches pas la disqueuse. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a touché à la disqueuse. Elle s'est mise à tourner comme une toupie et lui, il est parti en courant. Je l'ai plus revu aux travaux. Hein. L'être humain, il est comme ça. Quand la parole de Dieu nous dit « garde », nous, finalement, on s'en défait. Et quand la parole de Dieu nous dit « ne touche pas », c'est là qu'on va mettre le doigt. On pourrait se dire, mais Dieu, il faudrait changer le code des paroles. Mais Dieu est vérité, il ne va pas nous raconter des mensonges pour nous attirer vers la vérité. Il est question pour nous de saisir, finalement, Seigneur, tu me dis de ne pas toucher parce que ce n'est pas bon pour ma vie. Y a-t-il des choses que vous considérez que ce n'est pas bon de toucher dans la vie ? Quoi, par exemple ? La drogue ? Quoi encore ? L'alcool ? On pourrait faire une grande liste, hein ? Mais croyez-moi, Dieu est allé chercher même ceux qui étaient malheureusement tombés dans la drogue. Ceux qui étaient tombés dans l'alcool, le Seigneur les a sortis. Parce qu'il a le pouvoir de libérer. Et il a vaincu la mort, nous dit la parole de Dieu. Et non seulement il a vaincu la mort, mais en plus, il a fait éclater sa lumière, sa gloire. Et à chaque fois, on voit une transformation dans le cœur de ceux qui se donnent au Seigneur. Alors il y a des ressources pour le disciple de Jésus-Christ, parce que certes, le Seigneur nous appelle à prendre notre croix. On pourrait se dire, ouais, mais quand même, c'est compliqué, c'est dur, c'est difficile. Seigneur, mais Dieu a prévu pour nous des ressources, pour que finalement, le fardeau que nous prenons, dit la parole de Dieu, n'est pas quelque chose qui nous écrase, car c'est quelque chose de doux et léger que Dieu a préparé pour nous. Pourquoi ? Parce que quand on fait quelque chose, même si c'est difficile, mais qu'on le fait avec amour, c'est beaucoup mieux. Hein ? Je m'adresse aux hommes qui sont dans la salle. Même si aujourd'hui, les femmes, elles bricolent de plus en plus. Mais ça arrive parfois que quelqu'un vienne vous dire, écoute, il y aurait tel travail à faire. Oh là 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 là, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. On renvoie, on attend. Mais finalement, c'est presque la seule chose qu'il y a à faire. Et donc, c'est le sujet du matin, du midi, du soir. La nuit, on est réveillé. Tu sais, j'ai pensé à ça pour tels travaux. Si vous n'avez pas d'idée pour les travaux, je vous donne un numéro de téléphone. Elle vous en donnera plein. Ah, chérie. J'ai pensé à ça. J'ai prévu ça. Et finalement, si on prend, on regarde le travail tel qu'il est, on ne le fera jamais. Mais à la fin, ce qui doit nous pousser à le faire, c'est de dire, écoute, j'ai vraiment à cœur de te faire plaisir, parce que je t'aime, je vais le faire. Et quand on y met le cœur, quand on le fait avec joie, c'est différent. Même si c'est compliqué, c'est différent. Et quand on a terminé, oh, on est content, on est heureux. Je connais un frère qui, à force de faire des travaux, il s'est acheté une casquette avec la protection pour la tête. Parce que je pense que lui doit avoir des chantiers en attente. Il n'y a pas que son épouse qui lui en colle sur le dos, mais bon. Hein? Le Seigneur a prévu des choses pour nous. Et elles pourraient nous sembler lourdes à porter. Moi, je vous dis sincèrement, pendant des années, je disais au Seigneur, pasteur, jamais oublie. Oublie. Je sentais Dieu s'approcher. Moi, je partais dans l'autre sens, vous savez. Combien de fois il y a eu des frères, des pasteurs qui sont venus me voir, Emmanuel, tu sais, on sent qu'il y a un appel de Dieu, c'est bien, si tu le sens, c'est bien. Mais moi, je ne sens rien. Parce que je savais ce que c'était aussi. Je le vivais au quotidien à cause de mes parents. Et de voir combien des fois ça pouvait être difficile. Mais en même temps, quand j'ai commencé, au lieu de regarder la difficulté, de voir la manière où Dieu agissait dans les difficultés, je n'ai plus regardé au poids, mais je regardais à la joie et au bonheur de voir Dieu à l'œuvre dans notre vie. Et je voudrais dire à ceux qui se baptisent ce matin, Dieu fera des belles choses dans votre vie. Tout ne sera pas facile, mais Dieu y agira. Faites confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. En toutes les difficultés que nous pouvons traverser, gardons nos yeux fixés sur Christ et il agira. L'apôtre Paul dira, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Quel bonheur d'avoir cette grâce que Dieu communique à chaque fois qu'on y va. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Bien, fais le plein. Heureusement que ce n'est pas comme le carburant, hein. Quand on doit faire le plein, maintenant, on y pense 2-3 fois. On est presque en train de pousser la voiture parce qu'on est allé jusqu'au bout. Mais quand on parle de la grâce, ce n'est pas ainsi que ça doit être. On ne doit pas essayer de vivre notre vie en disant « je vais aller jusqu'au bout et après quand je ne peux plus rien faire, alors j'irai vers le Seigneur. » Hier, je recevais un appel de quelqu'un qui me partageait une difficulté avec ses enfants. Et je lui disais, t'en es où aujourd'hui avec ta vie avec le Seigneur? Mais on n'a plus d'église, on ne va plus nulle part. Ce n'est pas étonnant qu'après, certaines choses nous rattrapent. Et je lui dis, qu'est-ce que tu penses que ça serait bien de faire? Et il dit, c'est pour ça que je t'appelle. Je lui dis, moi, à mon avis, il faut retourner là où le Seigneur vous attend. Recommencer là où vous vous êtes arrêté. Il dit, on l'a pensé, mais... On avait besoin de confirmation. Je dis, maintenant tu l'as, demain tu vas à l'église. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à chercher la place qui nous attend, celle que Dieu veut que nous prenions. Et d'ailleurs, la parole de Dieu dira par l'apôtre Paul, « Souffre avec moi comme un soldat. » La place du soldat, c'est où? Au combat. Avez-vous déjà vu des soldats en parade? Ah, ils sont forts en parade, hein. C'est une autre histoire, je vous la raconterai une autre fois. Mais il m'est arrivé de participer à une parade militaire où il y avait le chef d'état-major de l'armée italienne et j'ai vu des gens qui ne sont jamais allés au combat, mais ils avaient des médailles, on veut tuer, on voit là, il y en avait un, il penchait même en avant. Mais ils les avaient tous gagnés sur le papier, ces médailles. Le Seigneur ne veut pas de soldats de pacotille. C'est trop facile d'avoir une belle tenue qu'on met dans l'armoire et on sort le dimanche matin pour aller à l'église. Ne soyez pas des soldats du dimanche matin. Soyez des soldats de Jésus-Christ tous les jours de votre vie. C'est ça, être un disciple de Christ. Et il est question d'être aussi un athlète qui court selon les règles. Amen. Un athlète qui ne court pas, ce n'est pas un athlète. Moi, je dis souvent que je suis sportif non pratiquant. Et je le fais exprès. Parce que quand j'entends les personnes me dire « je suis croyant non pratiquant », c'est comme dire « je suis boulanger non pratiquant ». Tu n'es pas boulanger si tu ne fais pas de la boulangerie. Tu ne peux pas être un chrétien non pratiquant, je suis désolé. Parce que ça veut dire que ça ne fait pas partie de ta conviction, de ta vie, de ta manière d'être, de ton ADN. Je connais des personnes qui font du sport. Vous leur empêchez de faire du sport, ils sont en souffrance. C'est juste ou pas un sportif pratiquant au fond? Tout ce qu'il désire, c'est dépenser. Et le Seigneur voudrait que vous puissiez courir pour lui. Avec les chaussures du zèle. celles qui nous permettent finalement d'être de ceux qui annoncent l'Évangile. Combien ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Une dernière image, le laboureur. Ce matin, on écoutait juste au journal un monsieur qui disait qu'il travaillait 70 heures par semaine et que par mois, il arrivait à peine à gagner 700 euros. Ce n'est pas un salaire, c'est une misère pour autant de travail, autant de sacrifices. Mais Dieu ne veut pas que vos sacrifices soient vains. Parce que celui qui prend soin de vous, c'est le Seigneur. Et il agira pour que finalement, ceux pour lesquels vous avez travaillé votre vie, le Seigneur, il prépare pour vous un trésor dans le ciel. D'ailleurs, il nous dira, faites-vous un trésor dans le ciel, là où la rouille, les voleurs ne peuvent pas ni abîmer, ni prendre. Le Seigneur voudrait que nous puissions un jour recueillir le fruit, voir des âmes. Moi, je bénis le Seigneur pour leur possibilité aujourd'hui de voir ces trois personnes descendre dans les eaux du baptême. Pourquoi ? Parce que du premier moment qu'on les a vus, déjà avant on priait, mais du moment qu'on les a vus, on a mis aussi un visage sur nos prières. Et on a continué à dire, Seigneur, aide-les, garde-les. Et Seigneur a fait une œuvre dans leur cœur, ce n'est pas nos paroles. Hein. On ne peut convaincre personne. Il n'y a que Dieu qui puisse nous convaincre. Et quel bonheur finalement de voir un fruit. Des cœurs qui se donnent. Quelqu'un l'a cité tout à l'heure dans sa prière. Quand il y a quelqu'un qui se donne au Seigneur, il y a grande fête dans le ciel. Alors imaginez ce matin avec trois baptêmes. Oh là là. C'est pour ça que ça souffle. Hein. Il est question pour nous de revenir au modèle par excellence, Christ. Il dira le texte, il suffit aux disciples d'être comme son maître. Matthieu chapitre 10, verset 25. Mais l'apôtre Paul citera aussi des noms de ceux qui ont abandonné, de ceux qui avaient commencé, mais ils ont arrêté. Finalement, il y a eu un manque de loyauté. Ils s'étaient engagés à quelque chose et ne sont pas allés au bout. Alors, je voudrais vous dire, vous engagez avec Christ, allez jusqu'au bout. Dieu est loyal et il est fidèle. Il dit la parole de Dieu que si même nous, on est infidèles, lui demeure fidèle parce que ça fait partie de sa personne, de sa personnalité. Et alors, il y a, dans le texte que nous avons lu, 4 si. Verset 11. Il dira, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Quoi dire si ce n'est que le désir de Dieu, c'est que nous soyons comme lui. Ce matin, le pas du baptême fait partie aussi de ce que Christ nous a laissé. C'est lui-même qui, devant Jean-Baptiste, qui dira, Seigneur, ce n'est pas toi qui dois être baptisé, c'est moi qui devrais être baptisé par toi. Il dira, laisse, il faut accomplir la volonté du Père. Et du moment que Jésus, lui qui n'avait pas besoin finalement d'être baptisé, parce qu'il n'avait pas de péché à se faire pardonner, mais qui par obéissance a agi. Parce que je vous rappelle que le premier homme, Adam, il a chuté à cause de la désobéissance. Et Jésus fera toujours ce que le Père lui demande jusqu'au bout. Père, non pas ma volonté, la tienne. Et il a commencé pour nous dire, il faut apprendre à obéir au Seigneur. Tu ne comprends pas toujours, mais obéis au Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que quand Jésus sortit de l'eau, donc pour sortir de l'eau, il faut y rentrer. Ce n'est pas quelques gouttes, c'est le fait finalement de rentrer dans l'eau, puisque la parole de Dieu nous dit baptême, et le mot baptême veut dire immerger. Et du moment qu'il sortit, il dit la parole de Dieu, qu'on entendit une voix. Voici mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Et je peux vous dire qu'encore ce matin, Dieu se réjouit de voir des enfants s'engager avec lui, car lui, il met en vous toute son affection. Mettons nous aussi en lui tout notre amour et suivons-le. Je vous invite à incliner vos têtes et nous allons juste prier un instant. Seigneur, nous te bénissons parce que ta parole nous indique, Seigneur, une voie est un cheminement. Et ce chemin, cette voie, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. La parole nous dit que nul ne vient au Père que par lui. Et encore ce matin, Seigneur, nous confessons le nom de Jésus comme le seul chemin qui peut amener finalement à ta présence. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous désirons non pas être des religieux, garde-nous de cela, Seigneur, mais être des disciples, être de ceux qui suivent le Maître, de ceux qui agissent dans les intérêts de l'œuvre de Dieu et pour que le plus grand nombre d'âmes soient sauvées. Seigneur, merci parce que tu nous as pris là où nous étions, dans notre vie de pécheurs, pour finalement nous offrir une deuxième opportunité, une vie nouvelle en Jésus-Christ. Tu fais de nous des nouvelles créatures. Ta parole nous dit que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela ne peut se produire que par le sacrifice qui a été accompli à la croix par Jésus lui-même. Merci pour le sang versé pour nous. Merci d'avoir payé notre dette et de nous avoir appelés finalement à ton admirable lumière. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons encore merci. Merci d'avoir, Seigneur, bâti, Seigneur, un temple dans le cœur encore de ces trois personnes qui s'engagent avec toi aujourd'hui. Mais ton désir, c'est de continuer, Seigneur, à faire du cœur de chacun de nous le temple du Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que encore ce matin, tu parles au cœur et je te prie, Seigneur, convainc les cœurs de s'approcher de toi. À toi, toute la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. On va prendre un temps pour...